Bonjour, on va tenir le coup jusqu'à midi et demi, une heure et demie, jusqu'à une heure.
Non, jusqu'à...
Donc moi je vais vous restituer un petit peu des éléments de par rapport à l'étude que j'ai pu réaliser pour le RTS sur les pôles territoriaux. Je ne reviens pas sur une autre définition qui avait été posée par le collectif d'acteurs autour de ces dynamiques de coopération économique entre acteurs sur les territoires. Concrètement, c'est quoi? C'est des associations, des coopératives, des entreprises qui se réunissent, qui s'associent les compétences de chercheurs ou d'universitaires si possible pour réfléchir et amener un petit peu de regard extérieur sur leur démarche, et puis qui essayent de développer à la fois de l'économie interne entre les structures qui composent ces pôles, donc de développer leurs activités, et puis de mutualiser des moyens, et puis de développer des marchés à l'externe. En se disant, ça se profilait dans le cadre des états généraux de l'ESS, derrière l'argument quand même, l'ESS doit montrer qu'elle peut changer d'échelle, donc elle peut avoir un impact plus fort sur notre économie nationale, et puis elle peut être une réponse à la crise. Elle est une réponse à la crise. Alors moi je sais plus, j'ai fait passer un diaporama, mais ça ressemble pas à ça.
C'est là, voilà.
Et donc j'ai réalisé une étude pour le RTES où on a fait une partie quantitative autour de 43 projets étudiés en France, et puis une étude plus qualitative autour de 13 projets dont un certain nombre ont été retenus dans l'appel à projet national. Alors cette étude a été menée en 2013 sur des bases sur des données finalement de 2012. Donc on est vraiment dans une lecture de l'émergence de ce concept-là, de l'émergence de ces dynamiques. Et donc on ne va pas tirer des leçons pour l'avenir, mais plutôt des repères et des indications. Ça souligne bien l'étude a confirmé qu'on est dans une démarche expérimentale, quoi. On est dans un temps d'expérimentation de ces coopérations. On le voit par la jeunesse des projets, et puis on le voit par... des formes qui ne sont pas encore stabilisées d'organisation, à la fois d'organisation fonctionnelle et organisation économique. Donc 42, oui, j'ai à peu près tout dit. Non, j'ai pas à peu près tout dit. Je voudrais revenir parce que voilà, pour vous dire, on est principalement sur des formes associatives de groupements. Qui, pour certaines, essayent d'imaginer une transformation en société coopérative d'intérêt collectif. La forme associative étant reconnue comme étant la plus souple pour s'organiser. On a une grande diversité de territoires touchés, une grande diversité de projets, une grande diversité de champs d'activité qui sont concernés. Cerner un petit peu le fonctionnement de ces pôles, il faut bien considérer que il y a des structures qui participent et qui développent leurs activités de production, de services. Et puis il y a une cellule d'animation qui est souvent bénévole, qui est parfois animée par un ou deux salariés. Et au moment où on a fait cette étude, on était plutôt sur des groupements qui se composaient d'une dizaine de structures. Ça peut aller de 5 à 25, 30 structures. Parfois avec une structure dont l'économie est prépondérante, on va dire, relativement forte et qui permet d'engager des moyens de développement assez rapides. Et parfois, on est dans des groupements de structures, de microstructures très petites. Et là, la capacité à développer, à mutualiser des moyens pour faire de la coordination, on va dire, repose plus sur des énergies bénévoles. Et du coup, on distingue ces groupements, les membres de ces pôles qui composent une dizaine de structures et qui peuvent avoir des chiffres d'affaires, développer des chiffres d'affaires qui sont de l'ordre du million d'euros, 2 millions, 5 millions d'euros, suivant le nombre de structures et d'acteurs. De la cellule d'animation de ces pôles, sur laquelle on s'est un petit peu centré, et qui, elle, c'est de l'activité d'ingénierie et de développement et de coordination. Et là, les ressources sont très rares, c'est de la mutualisation. Et on est plutôt sur des cellules d'animation qui ont un budget de l'ordre de 150 000 euros. Et deux emplois permanents en moyenne. Donc, reste. Je prends un peu de temps quand même. Donc je disais l'activité des membres. Sur les secteurs d'activité les plus représentés, en fait, alors on a le bâtiment qui vient en premier, avec un travail autour des nouveaux matériaux, isolation, nouvelle construction, éco-construction, valorisation du patrimoine qui est assez présent. On a le champ de l'agriculture qui est bien présent aussi avec l'accompagnement à l'installation, les maraîchages bio, les circuits courts, la production locale. Puis viennent la culture et les industries créatives. Alors culture autour du spectacle vivant et puis autour du patrimoine culturel qui sont des notions assez fortes présentes. Et puis industrie créative, on sera plus sur le spectacle enregistré ou les métiers du design, des choses comme ça. Et enfin, un quatrième champ qui est autour du déchet et de l'énergie, alors sur les recycleries, ressourceries par exemple, ou la production d'énergie, ou la recherche d'économie d'énergie. On est dans une démarche d'émergence, donc on a un fonctionnement économique qui n'est pas stabilisé, hein, ça on l'a bien constaté sur cette étude, avec un fort besoin et de moyens et de temps pour l'amorçage. Ça rejoint ce qu'on pouvait échanger sur la nécessité de se connaître pour construire ensemble, et de moyens, donc sur un peu de moyens pour la coordination et l'animation de ces pôles. Les premières réflexions qui se font sur les modèles économiques, en tous les cas le fonctionnement économique, parce qu'on est encore loin des modèles, c'est d'une part développer, arriver à une taille critique, combien il faut qu'on soit d'entreprise ou d'acteurs, ou quel budget d'activité il faut qu'on arrive à atteindre pour avoir une taille qui nous permette de développer de l'ingénierie et de la coordination sur nos propres moyens. Et puis, le deuxième élément, c'est quand on développe du service mutualisé, très bien, ça permet des économies aux membres et donc ça permet d'investir dans cette mutualisation. Quid du travail de coordination qui là, ce sont des activités, on va dire, de second niveau, hein, et qui ne trouvent pas de moyens, en tous les cas, à l'amorçage pour l'instant. Dans cette phase de 2012-2013, on est vraiment sur un moment d'appropriation du concept. De formalisation, de réflexion même sur le concept, ça se passe au sein du labo de l'ESS par exemple, donc bien dans une dynamique d'expérimentation. Et ce qu'on va relever dans ces dynamiques d'expérimentation, c'est qu'elles ne sont pas descendantes évidemment, mais ascendantes, et qu'elles sont très dépendantes d'une part de l'histoire locale. Il y a un événement local qui fait que les acteurs se sentent obligés de se mettre en coopération ou en vie, hein, mais il y a une urgence finalement à coopérer localement, et ça c'est un élément déclencheur qui a bien considéré. Et puis c'est des rencontres humaines avec souvent, généralement, une personne qui est en capacité aussi d'entraîner, hein, une personne ou plusieurs, petit groupe de leaders. Mais il y a cette question du leadership, et sans leadership, finalement, la coopération, elle est consentie, mais elle manque d'entraînement. Voilà. Et dernier élément sur quelques repères, ce qu'a pu nous enseigner cette étude, c'est autour de l'ambition de ces pôles. Certes, il y a développement d'économie, changement d'échelle, etc. Il y a un premier enjeu de visibilité et de lisibilité de l'ESS qui est confié par une attente confiée par certaines collectivités, donner corps et donner matière à l'économie sociale et solidaire, voire des fonctions stratégiques de développement de l'ESS sur leur territoire qui peut être confiée à ces collectifs. Jusqu'à la gestion opérationnelle de dispositifs, je pense dans les territoires ruraux, sur l'accueil des nouveaux habitants par exemple, voilà, ou l'économie solidaire sur une agglomération. Voilà, ça peut aller loin dans la transmission de fonctions par les collectivités. Alors, sur les rôles des collectivités, on a repéré une forte présence des collectivités, alors plutôt morale, hein, en 2012-2013 qu'économique, mais quoique. Les acteurs disent que 95% des acteurs disent que les régions sont présentes, puis viennent les intercommunalités et les départements. De façon dégressive, hein, 95%, puis on arrive au département à 66% de présence. Présence, ça ne veut pas dire financement, ça ne veut pas dire action concrète, mais une proximité. Les collectivités ne sont pas impliquées que donc dans le financement, mais sont aussi impliquées dans le repérage, c'est-à-dire identifier quels acteurs sur le territoire de qui sont dans l'ESS ou pas, mais qui ont un intérêt à coopérer, à mettre en lien différents acteurs. Dans les leviers qui ont permis cette mise en lien, on a évoqué ça sur différents événements autour de l'ESS. Alors le mois de l'ESS, des forums ESS, les assises, les diagnostics qui permettent de mieux lire le territoire et mettre en relation les acteurs. Ce que je retiens moi beaucoup dans les événements et forums qui ont pu être créés et qui ont permis un petit peu d'émergence, c'est que c'est vraiment des temps où on partage des enjeux. Donc on s'accorde ensemble entre acteurs et puissance publique sur les problématiques du territoire. Une lecture partagée du territoire permet de se mettre en ordre de marche tous ensemble, quoi. Et d'arriver sur du diagnostic partagé. Et enfin, comme levier, on a repéré des espaces de concertation, plus ou moins formalisés, les comités de l'ESS ou conseils territoriaux de l'ESS qui sont des vrais leviers. Les collectivités ont des rôles dans l'accompagnement. Et un des premiers rôles qui nous a été relevé, c'est que par les acteurs, c'est que dès qu'il y a une collectivité qui affirme son intérêt, elle apporte toute sa caution au projet et permet de faire levier auprès d'autres collectivités et de créer des synergies. Donc ça rejoint l'engagement politique qu'on évoquait tout à l'heure. Les collectivités amènent leur vision stratégique du territoire d'une part, quand elles en ont une et qu'elle est suffisamment mûrie. En tous les cas, elles sont attendues par les acteurs comme des garantes de l'intérêt général de leur action. Donc elles apportent leur caution, mais elles sont aussi garantes. Elles ne doivent pas s'engager donc les yeux fermés, mais c'est un rôle qui est souligné important par les acteurs. Et qui nous a été renvoyé régulièrement, c'est les apports en compétences des collectivités, donc plutôt des techniciens certainement, dans l'accompagnement au développement de leurs projets, à la structuration, à la mise en relation sur différents services, vers différentes collectivités ou partenaires, et qui déclinent vers aller chercher la compétence de telle agence ou de tel dispositif d'accompagnement, développement économique notamment. Et pour une petite image sur l'économie, je vous parlais tout à l'heure de 150 000 euros à peu près le budget de fonctionnement d'une cellule d'animation, donc les quelques emplois et activités autour de l'ingénierie. Sur les 40 projets qu'on a étudiés, c'est 2 millions d'euros qui ont été mobilisés par les collectivités. C'est pas faramineux, mais c'est pas négligeable non plus. Et pour les projets, ça représente une moyenne de 2 collectivités qui s'impliquent, chacune à hauteur de 25 000 euros. Ça vous donne un repère sur le besoin d'amorçage, enfin le besoin, la réponse d'amorçage qui a pu être donnée par certaines collectivités. 2 collectivités, 25 000 euros chacune. Et pour conclure, on a essayé de poser quelques 8 points sur lesquels les collectivités peuvent faire levier en faveur des pôles territoriaux de coopération économique. Ça reprend des éléments qui viennent d'être débattus, mais faire œuvre de pédagogie sur l'économie sociale et solidaire, c'est le plus grand frein. La méconnaissance de l'ESS est le plus grand frein à son développement, c'est que les gens, les habitants, les personnes qu'on croise ne connaissent pas, ne savent pas ce que ça représente, mais aussi encore beaucoup d'élus et de techniciens, évidemment, mais on avance d'année en année. Deuxième levier important, c'est d'inscrire les PTCE dans le soutien plus large de la coopération économique territoriale dans les différents cadres contractuels, les contrats de plan, les contrats de développement territoriaux, etc., etc., évidemment. Le troisième point qu'on avait noté, on vient de l'aborder, c'est organiser la transversalité à l'intérieur des collectivités, donc on le réabordera cet après-midi, et puis de développer de la coopération intercollectivité, puisqu'on est sur des projets complexes qui nécessitent de mobiliser des moyens de multipartenariaux. Le fait d'impliquer les têtes de réseau, c'est marrant parce qu'on reprend évidemment toutes les thématiques qui viennent d'être parlées, mais discutées juste avant, mais le fait d'impliquer les têtes de réseau et les acteurs de l'ESS dans des démarches de concertation territoriale pérennes, si possible, ça permet de développer les coopérations, évidemment. Un sixième levier qui était noté autour de s'appuyer sur les projets d'aménagement urbain, d'investissement et de mutualisation immobilière. En effet, on a noté que l'enjeu du lieu, l'espace de travail, l'espace de rencontre et de mise en visibilité de ces projets-là était assez important. Le lieu est à la fois un outil de la coopération, c'est aussi un levier économique dans ces projets, puisque la mutualisation d'un espace de travail, ben, ça permet de réduire un petit peu ses coûts de production. Et puis c'est un enjeu stratégique, parce que ça amène de la visibilité et ça oblige à faire ensemble, quoi. C'est un endroit où certaines collectivités ont plus de facilité à s'investir que sur du fonctionnement, donc c'est un véritable levier pour certaines. Voilà, et puis reste la question, le septième levier est sur la question du financement, de la coordination et de l'animation de ces pôles. On est sur des acteurs de l'ESS qui cherchent à se pérenniser, à développer leurs activités et leur économie. Ils ont déjà du mal à se maintenir sur leur économie propre. S'ils doivent développer une économie et de la mutualisation sur la coordination de second niveau, ils ont du mal. Donc il faut les accompagner là-dessus et dans des logiques, pas un an ou juste trois ans. Pour certains, ça va demander cinq ans, sept ans pour dégager ces moyens à la coordination. Donc voilà, j'encourage plutôt à soutenir l'emploi sur ces fonctions-là et puis à maintenir votre implication sur collectivité dans la porte compétence que vous avez sur les différents domaines que vous croisez. Apport de compétence et puis ben, les apports de moyens restent toujours bénéfiques pour les porteurs, pour les acteurs.